Madame Maître Sunergren, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que justifie la présence en RDC d'une femme ambassadeur que vous êtes, unique femme accréditée en RDC et à côté de beaucoup d'hommes?
Bon, merci pour la question. Je pense que c'est un peu dommage que je suis la seule. J'aurais bien avoir eu des collègues femmes entre nous. Mais il faut dire que j'ai eu certains moments quand les interlocuteurs ou les partenaires avec lesquels on va parler ou on va avoir des négociations ne comprennent pas que moi je suis aussi une ambassadeur. Alors, ils pensent que je suis l'assistante ou la secrétaire de quelqu'un de mes collègues. Alors, c'est parfois un peu une lutte de me faire exprimer dans une façon que tout le monde comprend que moi, je suis aussi l'ambassadeur.
La Suède est un bon modèle en ce qui concerne le respect de la parité homme-femme dans les institutions. Qu'est-ce qui a motivé votre pays à respecter cette parité?
Je pense qu'en Suède, on a eu un mouvement des femmes qui a commencé dès très longtemps. C'était déjà quand on a eu la liberté des religions. Ça fait plus de 200 ans maintenant. Et c'était les femmes qui étaient dans l'époque, les militants, disons, dans les différentes églises. Et à travers de ceci, ils ont aussi fait des autres organisations pour la santé des femmes, pour la santé des enfants, pour l'hygiène dans les endroits familiales. Et avec cette organisation qu'ils ont pu faire, les femmes sont aussi entrées dans la politique. Et même que la politique, il y a 150 ans en Suède, c'était une affaire des hommes, disons. Il y avait de plus en plus de femmes qui entraient, qui faisaient des petites choses, mais qui ont aussi demandé d'avoir des postes plus importants. Après, on a vu dans des autres pays, la Suède n'était pas un des plus premiers, mais quand même, en 1921, on a eu la première vote féminin, alors un suffrage universel. Et ça, c'était, on peut dire que les femmes avaient vraiment pu gagner quelque chose par leurs propres initiatives, parce que c'était pas facile. Le vote qu'avait fait le Parlement, qui était entièrement des hommes pour pouvoir laisser les femmes voter, c'était juste. Alors après que les femmes ont pu entrer dans la politique officiellement à travers le vote et d'être élues et tout cela, c'est devenu un peu plus rapide. Et en même temps, ces femmes ont dit qu'on ne peut jamais avoir l'égalité des sexes et des opportunités entre hommes et femmes si nous ne pouvons pas aussi faire part de tous les travaux qui faisaient les hommes.
Est-ce que la RDC peut s'inspirer de l'exemple suédois dans la lutte contre les violences sexuelles et de quelle manière?
Oui, je crois qu'il y a une particularité ici qui est la violence sexuelle qui font part du conflit, des conflits armés. Les violences sexuelles qui se passent dans le conflit, il y a besoin d'une certaine réponse holistique qui prend en charge toutes les choses qui ont à faire avec le conflit. Mais la violence sexuelle est basée sur le genre et qui se passe dans la famille ou dans la vie civile, disons. Il faut aussi prendre ça en très sérieux. Et je crois là que chez nous, comme on a une certaine expérience maintenant d'aller, disons, un temps à l'époque, on ne pensait pas que c'était une chose pour la société. On pensait en Suède aussi que c'était quelque chose intrafamilial, que c'est des choses que la famille doit résoudre dans son propre sein sans l'interférence de la société ou de l'État. Mais maintenant, on a évolué un peu sur ce thème et on a vu que c'est quelque chose qui est vraiment pas possible de résoudre dans la famille, que c'est une responsabilité de l'État. Et je crois que c'est l'ambiance ou l'environnement protecteur des femmes et des filles qui doit s'améliorer dans ce sens.
Restons un peu dans ce domaine de la lutte des violences faites aux femmes. Si on peut évaluer l'aide ou l'assistance apportée par la Suède à la RDC?
La Suède a une grande assistance qui vise à combattre les violences sexuelles. On a notre programme de santé qui est focalisé, disons, sur la santé maternelle et des petits-enfants, mais qui aussi prend en charge tous les aspects physiques et psychologiques des victimes et survivantes des violences sexuelles. Ça, on fait avec trois partenaires, des ONG internationaux et l'UNICEF. Dans l'autre aspect, on travaille aussi avec la justice pour améliorer l'accès à la justice pour les victimes et survivantes des violences sexuelles. Et c'est-à-dire qu'on combat l'impunité en renforçant le système de justice. C'est-à-dire que dès qu'une femme ou une fille vient pour dénoncer une violence faite contre elle, disons la chaîne dans la justice doit fonctionner jusqu'à qu'il y ait un présumé auteur qui peut être puni. Si nous avons plusieurs programmes, il y en a quatre programmes, deux avec les agences des Nations Unies et deux programmes qu'on fait ensemble avec l'Union Européenne et la Belgique qui est directement lié avec le ministère de Justice. Je crois que là aussi, on parle d'une vingtaine de millions de dollars.
Ce mois est dédié aux femmes. En faisant une sorte de parallélisme sur la célébration de ce mois en RDC et en Suède, quel message pouvez-vous adresser aux Congolaises?
Je pense que le thème cette année de combattre les violences sexuelles et d'aller des mots à l'action, comme le devis a été une promesse, c'est une promesse. Je pense que ça, c'est une bonne chose et c'est le temps d'aller du mot à l'action. Je pense que ici, nous avons une situation assez dure pour les femmes parce que ce n'est pas seulement les violences sexuelles, c'est la pauvreté, c'est le conflit, c'est le souci de ce qui va se passer avec les enfants qu'on a qui peut-être peuvent pas aller à étudier, qui peuvent pas peut-être avoir les soins médicaux qu'ils ont besoin. Alors les femmes du Congo, elles souffrent vraiment et je pense que c'est vraiment le temps d'aller aux actions pour améliorer leur vie. Et je crois que notre exemple de la Suède, dans ce sens, aide un peu à la réflexion. Nous aidons avec notre programme de développement, de l'aide au développement, mais c'est aussi de savoir que l'environnement protecteur qu'on a besoin, c'est ça que nous avons fait il y a assez longtemps, 50 ans plus en Suède, que l'éducation soit gratuite, que les soins médicaux pour les petites filles et les femmes enceintes puissent être gratuits. Parce que comme ça, il n'y a pas d'excuses de ne pas aller avoir une éducation, de ne pas prendre soin de sa santé, et ça c'est les choses qui sont absolument élémentaires pour que les femmes après puissent.
Est-ce que vous le dites souvent dans vos contacts aux décideurs congolais?
Oui, je parle souvent avec les décideurs congolais sur la situation de la femme et la nécessité des égalités des sexes. Ça dépend avec qui je parle, mais je soulève toujours la nécessité de faire des améliorations et d'investir dans le futur des femmes congolaises.
Madame l'ambassadeur, je vous remercie.
Merci beaucoup.